où tout le monde désespère, excepté conscience. En revenant chez lui, le père cadet trouva tout l'intervalle qui s'étendait entre les deux chaumières, obstrué par la population d'Aramon. Elle s'était groupée autour de Bastien qui venait de reparaître dans le village, la figure ornée de deux coups de sabre qu'on ne lui connaissait pas, ce qui n'avait point empêché Catherine de jeter des cris de joie en le revoyant. Un de ces deux coups de sabre était celui que nous lui avons vu lors de sa rencontre avec Mariette devant la porte de l'hôpital de Long. L'autre était celui qu'il avait reçu du cuirassier. Nous avons dit comment Bastien avait quitté Mariette en l'invitant à être parfaitement tranquille, vu qu'il avait préparé certains coups de figure qui lui paraissaient immanquables. Par malheur, deux personnes ont parfois en même temps la même idée. Or, le cuirassier avait eu la même idée que Bastien en même temps que lui. Il en résulta que, comme ce fut le cuirassier qui fut le plus prompt, Bastien reçut le fameux coup de figure au lieu de le donner. Sa première visite avait été pour conscience. Il accourait donc, suivi de tout le village, voir son compagnon d'hôpital et s'informer comment allaient ses yeux. On sait que les yeux de conscience allaient aussi bien que possible. Malheureusement, ce qui venait de se passer entre le père cadet et le cousin maniqué prouvait que tout n'allait pas aussi bien que les yeux de conscience. Le père cadet n'avait qu'un espoir, c'est que maître Niguet, qui avait surtout une clientèle de rentier, trouverait sur seconde hypothèque la somme que le père cadet avait à payer à son vendeur. La chose était d'autant plus possible, le cousin maniqué payé, cette seconde hypothèque devenait la première. Or, comme le lendemain, Mariette, profitant de l'absence des Russes, comptait recommencer ses voyages de Villers-Cotterêts et tirer le meilleur parti possible du lait que donnait toujours en abondance la vache noire, il fut convenu que le père cadet serait hissé sur Pierrot, maintenu sur le sudit Pierrot par conscience, et se rendrait chez maître Niguet pour tenter la négociation. Le lendemain, les deux jeunes gens et le vieillard partirent. Bernard traînant sa charrette comme d'habitude, Pierrot portant le père cadet. Mariette eut retrouvé toutes ses anciennes pratiques et même des pratiques nouvelles si elle eut du lait en quantité assez abondante pour en vendre à tous les demandeurs. Mais la vache noire n'en donnait que deux mesures, c'est-à-dire pour 16 sous, ce qui était déjà énorme pour une vache seule. Mariette fut obligée d'avoir ses privilégiés, et ayant ses privilégiés, de faire des jaloux. Tandis qu'elle accomplissait sa tournée, le père cadet, conduit par conscience ou plutôt conduisant conscience, car le jeune homme avait toujours les yeux couverts de sa visière verte, se rendait chez maître Niguet. Il trouva le digne notaire dans son étude, à la même place, dans son même fauteuil, avec ses mêmes clercs. Un trône était tombé, une invasion avait eu lieu, une dynastie était restaurée, sans que ces mémorables événements eussent enlevé un seul grain de la vénérable poussière qui couvrait les dossiers de l'inébranlable tabellion. Conscience s'arrêta dans la première chambre où se trouvait Madame Niguet, à laquelle il lui fallut raconter toutes ses aventures, au bout desquelles la digne dame entrevit un contrat de mariage à faire par maître Niguet. Mais Conscience accueillit assez tristement l'ouverture. Entre lui et Mariette, c'était lui qui, selon toute probabilité, serait le plus pauvre avant quelques mois. Or si, contre les prévisions du docteur Lécosse, sa vue ne se rétablissait pas, il apporterait donc à la jeune fille, en échange de son dévouement, un mari, non seulement aveugle, mais encore ruiné. Pendant que Conscience faisait à Madame Niguet le récit demandé, et que celle-ci, qui avait les remèdes pour toutes choses, désapprouvait l'ordonnance du docteur Lécosse et en faisait à Conscience une autre à sa façon, le père cadet, avec une langue encore fort embarrassée, exposait à maître Niguet l'affaire qu'il a menée. Maître Niguet écouta avec la plus vive attention, mais tout en secouant la tête de temps en temps. Le père cadet vit ces espèces de dénégations tacites. « Est-ce que la demande que je vous fais est impossible, monsieur Niguet ? » dit-il. « Impossible, non, mais difficile, oui. Vous n'avez pas idée comme l'argent est peureux, père cadet, et l'on dit diablement de choses sur les projets du roi Louis XVIII et à l'endroit des biens des émigrés et surtout des biens de l'Église. » Vous croyez donc que je dois regarder un emprunt comme infaisable, monsieur Niguet ? Je ne dis point cela, je verrai, je chercherai, mais je ne promets rien. Le père cadet poussa un soupir et secoua la tête à son tour. Ah, dit-il, l'autre, nous enlevait nos enfants et nous les rendait avec les yeux, les bras ou les jambes de moi. Quelquefois même, il ne les rendait pas du tout, mais au moins il nous laissait nos terres. Père cadet, s'écria le notaire. Est-ce que vous seriez bonapartiste par hasard ? Alors je vous prierai, quelque cache que je fasse de votre clientèle, de la porter à maître Menson ou à maître Le Beigne. Quant à moi, je ne fais les affaires que des fidèles sujets de sa majesté. Oh, monsieur Niguet, excusez-moi si j'ai dit quelques mauvaises paroles. Je ne suis ni contre l'autre, ni contre celui-ci. Je suis pour ma terre, voilà tout. Celui qui met la serre à ma terre, ce sera mon roi, plus que mon roi. Ce sera mon Dieu, puisqu'il me donnera de quoi manger, à moi et à ma famille. Le père cadet se leva. Et presque aussi chancelant que la dernière fois qu'il était sorti de l'étude, il gagna la porte en secouant la tête et en murmurant « Ne pas trouver à emprunter 1600 livres sur une terre qui vaut 12 000 francs comme un liard ! Ah, ce n'est pas sous l'autre que pareille chose serait arrivée ! Adieu, monsieur Niguet et la compagnie. Viens, Conscience !» Conscience ne pouvait voir encore le père cadet, mais au son de sa voix, plus tremblante que de coutume, à sa langue, plus embarrassé que jamais, il comprit que le vieillard n'avait rien fait de bien merveilleux dans son entrevue avec le notaire. On retrouva Mariette et Bernard attendant sur la verte pelouse du parc. Mariette avait été plus heureuse, il ne lui restait pas une goutte de son lait. C'était un bonheur que de sentir cette ressource assurée. Mais avec 16 sous par jour sur lesquels Mariette devait prélever sa nourriture et celle de sa mère, il n'était pas probable que la jeune fille, si économe qu'elle fût, pût mettre de côté cette malheureuse somme de 800 francs dont le père cadet avait besoin à la Saint-Martin prochaine. Dans un tout autre temps, il y aurait bien eu le voisin Mathieu à qui l'on eût pu demander service. Et l'on sait si le voisin Mathieu, sous son écorce un peu rude, était obligeant. Mais la moitié des terres du voisin Mathieu était elle-même terre de noble ou terre d'église. De plus, ainsi que sur la terre du père cadet, les Russes avaient campé sur les terres du voisin Mathieu. Il ne fallait pas compter que pendant cette triste année 1814, un seul brin d'herbe pousserait sur les 80 arpents du voisin Mathieu. Si celui-ci avait de l'argent comptant en vertu de ce triste axiome, charité bien ordonnée de commencer par soi-même, il était probable qu'il le garderait. Mais il n'en avait sans doute pas, car on disait à Ramon, tout se sait dans un petit village de 100 maisons, on disait que le voisin Mathieu, 3 jours avant le père cadet, avait fait dans le même but que lui une visite chez maître Niguet et n'avait pas mieux réussi que lui. Dans un autre temps encore, Bastien eût pu offrir une petite ressource. On pouvait compter sur son dévouement pour conscience, car le hussard, comme tous les bons cœurs quand il avait mieux connu le jeune homme, était passé d'une extrémité à l'autre, de quelque chose qui ressemblait à de la haine à quelque chose qui était plus que du dévouement. On eût donc pu trouver une petite ressource en Bastien qui, renonçant à boire le vin blanc le matin et à jouer aux quilles le soir, eut, sur les 250 francs de sa croix et ses 400 livres de pension, facilement économisé une cinquantaine de francs par mois, nourri qu'il était chez le voisin Mathieu des chevaux duquel il avait repris la direction. Malheureusement, la personne de Bastien était presque aussi à l'index que la terre du père cadet et les terres du voisin Mathieu. Bastien était devenu depuis la rentrée des Bourbons un brigand, un bonapartiste, un compagnon de l'ogre. En conséquence, comme un gouvernement honnête et reposant sur le droit divin et les baïonnettes étrangères ne doit absolument rien à un pareil homme, le gouvernement avait cessé de se regarder comme débiteur de Bastien et ne lui payait ni sa croix ni sa pension. Ce qui mettait Bastien fort à la gêne. Bastien, lors de sa prospérité, n'ayant jamais songé à faire la moindre économie. Quant à Julienne, nous avons vu brûler sa ferme et nous savons que les Cosaques ont mangé ses vaches. Loin de pouvoir aider celui qui avait sauvé ses bestiaux et son enfant, elle avait donc, réduite à peu près à la misère elle-même, été forcée d'entrer comme ménagère à la ferme de Bonneuil. On pensa bien un instant à vendre Pierrot et Tardif. Mais Pierrot avait fort vieilli et son entêtement, connu à 3 lieues aux environs, lui faisait grand tort, à la fois comme valeur morale et comme valeur physique. Mais Tardif, beau encore à traîner la charrue, n'était même plus bon à abattre. Les seules dents qui eussent pu mordre sur Tardif étaient celles des Cosaques du Don ou de la Volga habitués à manger leurs chevaux morts de vieillesse. Mais les Cosaques, nous l'avons dit, s'étaient retirés. On n'eût pas trouvé 50 francs de Pierrot et Tardif réunis. D'ailleurs, Conscience, qui avec Mariette était le seul qui ne désespéra point, les jeunes gens sont les arches de la foi, Conscience s'opposait à ce que l'on vendît Pierrot et Tardif. Il avait causé longuement avec chacun d'eux à son retour, et il avait répondu à leur nom des services qu'il pouvait encore rendre. Au reste, Conscience était la sublime image de cette foi sainte qu'il portait dans son cœur. Complètement découragé, le père cadet ne quittait son lit que pour son fauteuil, et son fauteuil que pour son lit, et répondait à toutes les objections par des haussements d'épaules désespérés. Malgré le danger que courait la terre du père cadet de glisser de ses mains pour passer entre celles du cousin Maniquet, Conscience n'avait pas voulu négliger l'entretien de cette terre. Il avait en conséquence attelé Pierrot et Tardif à la charrue, et grâce à sa chanson devenue plus triste seulement que ne l'était autrefois, Pierrot et Tardif, retrouvant toute la force et toute l'ardeur de leur meilleur temps, avaient sillonné de rides fécondes le sein de notre mère commune. Il était revenu à la maison à la fin du second jour et avait dit « Père, la terre est labourée. » « Bien, avait dit le père cadet. Mais qui donnera du blé pour l'ensemencer ?»« Dieu y pourvoira, avait tranquillement répondu Conscience. « Oui, avait repris tristement le père cadet, mais en supposant que Dieu nous donne au mois d'octobre le blé pour ensemencer la terre, nous devons au mois de novembre 800 francs au cousin Maniquet. Qui nous donnera ces 800 francs ? Est-ce Dieu toujours ?»« Pourquoi pas ?» avait répondu Conscience avec sa sublime naïveté. Le père cadet, vieil incrédule, avait secoué la tête. Mais au commencement d'octobre, Conscience s'était mis en quête. Il avait attelé Pierrot à la charrette, il avait été à la porte de tous les fermiers des environs, avec son charmant sourire si plein de mélancolie, et il avait dit à chacun d'eux « Si vous avez un peu de blé de trop pour vos terres, donnez-le-moi, afin que je puisse ensemencer la terre du père cadet. Dieu vous rendra ce peu de blé que vous m'aurez donné en écartant l'orage de vos moissons vertes et les oiseaux de vos moissons mûres. » Et chacun avait donné à Conscience non seulement le blé qu'il avait en trop, mais encore une portion de celui qui lui était nécessaire. L'argent se refuse entre voisins de champ, mais pas le blé. Tel qui donnerait pas un liard à un pauvre prend un couteau et lui coupe pour 2 sous de pain à la miche de la famine. Conscience revint le soir avec 3 sacs de blé. C'était un peu plus qu'il ne lui en fallait pour ensemencer les 12 arpents de terre du père cadet. Celui-ci fut si étonné de ce résultat qu'il leva en signe de remerciement ses 2 mains vers le ciel, ce qu'il n'avait pu faire 6 mois auparavant que dans un geste de désespoir. Et le soir même, Conscience sentit sa vue si bien raffermie qu'il alla sans rien dire prendre le livre de messe de Madeleine, l'ouvrit, et au grand étonnement des 3 femmes qui versaient des larmes de joie, il lut tout haut cette action de grâce. « Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens que j'ai reçus de lui ? Il m'a aimé, il s'est livré à la mort pour l'amour de moi. Il me remplit de grâce en ce monde et me prépare à la vie éternelle. Ô mon âme, bénissez le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et Conscience, dès le lendemain, se mit à ensemencer la terre du père cadet, comme si le vieillard n'eût pas eu, 8 jours après, c'est-à-dire le 11 novembre, jour de la Saint-Martin d'hiver, à payer cette terrible somme de 800 livres, épée de Damoclès suspendue sur la tête de toute la famille. Seulement, tandis que Conscience ensemençait la terre, il reçut plusieurs visites du cousin Maniquet qui l'encouragea dans cette louable occupation, avec un accent trahissant tantôt l'inquiétude et tantôt l'ironie, selon que la sérénité du jeune homme effrayait l'usurier, ou que le dénuement bien connu de la famille le rassurait.